Vous écoutez
RMC.
Vendredi 15 mai,
l'info sur RMC.
Il est 8h02, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour à tous, c'est un peu comme si on trouvait une liberté envolée il y a 2 mois. Premier week-end déconfiné, vous êtes nombreux à avoir prévu de revoir des proches ou vous mettre au vert. Les vacances aussi en ligne de mire cet été, vous pourrez partir, à assurer hier le gouvernement. Les réservations sont ouvertes. Et puis plusieurs associations et syndicats appellent le gouvernement à retirer définitivement sa réforme de l'assurance chômage. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est ce matin sur RMC, BFM TV à 8h30. Bienvenue à tous sur RMC. Il y a encore une semaine, certains célébraient le week-end en apéro virtuel. Retour au réel aujourd'hui, ce soir, demain. Voici venu le temps des retrouvailles, le temps des copains, de la famille, des amis séparés depuis des mois. Les magasins ont ouvert aussi et il est désormais possible de se déplacer à 100 km de chez soi. Bref, tout un programme. Marion
Fournier. S'aérer, dépenser, se réunir en famille ou entre amis. Lilia, Lise et Odile savent déjà comment elles vont occuper leur premier week-end déconfiné.
On va aller faire les boutiques, parce que là du coup, j'ai fait des économies, mais bon, elles m'ont pas servi à grand chose vu que je suis restée chez moi.
Marcher un peu plus que notre kilomètre autour de chez nous, un peu les magasins, enfin rien vraiment de spectaculaire.
On va prendre les vélos et on va trouver un coin pour pique-niquer.
Le programme de Sophie est lui aussi tout trouvé. Balade samedi et pour dimanche.
Un barbecue improvisé sur notre terrasse avec nos enfants et leurs chéris.
Le barbecue sera sans nul doute l'une des activités phares de ce week-end. Rémi est boucher à Nice et il croule sous les commandes.
C'est côte de bœuf, saucisse, brochette. Il n'y a pas beaucoup de sauté de veau ou de daube. Hein. C'est uniquement des plats pour faire en famille ou entre amis autour d'un bon verre de rosé et d'un bon barbecue, quoi.
Que ce soit près d'un grill, dans les boutiques ou en famille, un seul souhait pour les Français ce week-end, profiter de la liberté retrouvée.
Les week-ends, c'est bien, les vacances, c'est mieux. La bonne nouvelle, c'est que cet été, eh bien, nous pourrons partir en France. Alors évidemment, il y aura des restrictions possibles en fonction de la manière dont évolue l'épidémie de Covid-19. Mais hier, le Premier ministre a invité les Français à réserver les logements, hôtels et aussi les transports, Rémi Inck.
Oui, ça n'a jamais fait autant de bien de réserver un billet de train. Hier, la SNCF a annoncé l'ouverture des réservations pour les vacances d'été. Dès ce matin, vous pouvez donc réserver vos billets pour les mois de juillet et d'août. Les billets seront échangeables et remboursables sans frais au cas où vous ne pouvez plus prendre le train si des restrictions très localisées sont mises en place en fonction de l'évolution de l'épidémie. La SNCF, qui envisage pour l'instant de faire circuler 100% de ces TGV et de ces intercités prévus cet été, sous réserve encore une fois de restrictions gouvernementales. La compagnie ferroviaire avance d'ailleurs prudemment. Elle ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin. Pour rassurer les voyageurs, la SNCF assure que tous les trains sont nettoyés et désinfectés tous les jours. Enfin, ce qui concerne les avions, en direction des DOM-TOM, c'est un peu plus long. Les plannings sont en train d'être mis en place. Le ministère des Transports et Air France nous indique ce matin que les compagnies aériennes sont en mesure d'augmenter le nombre de vols en fonction des demandes.
Merci Rémi. Les chiffres de la sécurité routière viennent de tomber. Baisse drastique du nombre de morts sur les routes au mois d'avril. Moins 55,8% par rapport donc à la même période l'année dernière. Une baisse qui s'explique évidemment par le confinement. Une aide attendue avec impatience par 4 millions de foyers. La caisse d'allocation familiale attribue à partir d'aujourd'hui une aide exceptionnelle de solidarité. Elle avait été promise il y a un mois par le gouvernement, versée en une seule fois. Elle s'adresse aux familles et aux personnes les plus modestes. Les précisions de Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, étaient ce matin sur RMC.
Chaque famille, chaque foyer, c'est-à-dire que vous avez des foyers qui sont composés d'une personne pour des bénéficiaires du RSA, sont des bénéficiaires du RSA qui sont seuls, donc ils auront 150 euros. Et quand vous êtes au couple, un couple au titre du RSA, vous recevrez 150 euros. Comme pour l'allocation de solidarité, à cela se rajoutent 100 euros par enfant à charge. Et nous avons aussi ciblé familles modestes, les familles qui sont locataires et qui touchent des aides au logement, ces APL, elles recevront 100 euros par enfant supplémentaire.
Et plusieurs associations et syndicats appellent le gouvernement à retirer définitivement sa réforme de l'assurance chômage. Pour l'instant, il a été décidé de reporter l'entrée en vigueur du texte à septembre prochain. Mais Claire Hédon, présidente de l'association d'aide aux plus démunis ATD Quart Monde, réclame sa suppression pure et simple.
On voit à quel point une crise comme celle-là est un aggravateur d'inégalités. Et ça va mettre beaucoup de personnes au chômage. On trouve du coup que c'est absolument pas le moment d'appliquer cette réforme du chômage. On était déjà contre avant, mais je pense que vu la situation actuelle, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut construire un monde différent, un monde d'après qui ne soit pas le même, une des premières choses à faire, c'est d'annuler complètement cette réforme de l'assurance chômage. Quand on sait que le gouvernement dit lui-même on ne peut plus faire comme avant, honnêtement, ça ne me paraît absolument impossible que cette réforme d'assurance chômage soit appliquée.
Et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sera votre invitée Jean-Jacques à 8h30 sur AMC et BFM TV. Nous prenons ce matin la direction d'une ville qui s'apprête à redémarrer après un sommeil forcé de 2 mois. Pour la première fois de son histoire, le sanctuaire de Lourdes avait dû fermer au grand regret des pèlerins. Et bien demain, il va à nouveau accueillir des fidèles, ceux qui habitent à moins de 100 km. Jean-Wilfried Forquès.
Les rideaux de fer des boutiques, des hôtels, des restaurants sont baissés. 3500 personnes en chômage partiel. Claudine Aubert, commerçante, est désespérée. Les pertes sont considérables.
Étant donné qu'on a eu une fermeture administrative depuis 2 mois, c'est 100%, zéro client, zéro chiffre.
Au sanctuaire, poumon économique de la ville, le trou à la fin de l'année pourrait être d'environ 8 millions d'euros. Mais Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas veut garder espoir, même si devant la basilique, c'est désert.
C'est vide, ça ne veut pas dire que cela n'a pas d'âme, parce que ça a une âme. Mais nous attendons ce moment où, à nouveau, les gens pourront être là, sur cette esplanade, devant la grotte, pour vivre, pour prier, pour processionner également.
Pour accueillir les premiers pèlerins, dès demain, des marques au sol ont été peintes par les équipes de Sébastien Mézounave, le responsable technique et sécurité.
Ces marquages au sol, ils sont là pour permettre d'assurer les gestes barrières, et donc notamment la distanciation, les fameux mètres. Donc dès qu'on a des personnes qui sont là pour attendre, elles sont invitées à se positionner dans ces ronds.
Si les pèlerins peuvent revenir à Lourdes dès demain à 14h, des chapelains, eux, n'ont pas cessé de prier devant la grotte durant toute la durée du confinement.
Et la cathédrale Notre-Dame de Chartres, l'une des plus grandes de France, a rouvert hier pour la prière personnelle. Seulement 10 personnes à la fois peuvent rentrer dans cet édifice qui, d'ordinaire, peut accueillir 3000 visiteurs. Les conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales seront installés officiellement avant fin mai. Un décret en ce sens doit être publié aujourd'hui. En attendant que les maires soient élus par le conseil municipal, eh bien, ce sont les sortants qui gèrent la crise du Covid-19. C'est le cas de Martine Lejeune, maire de Bouguenay, près de Nantes, 20 000 habitants. Elle ne s'était pourtant pas représentée aux dernières élections. Margot Bédé et Anaïs Denet l'ont suivi pendant une journée pour RMC.
Je m'appelle Martine Lejeune, je suis maire de Bouguenay, commune de 20 000 habitants, banlieue de Nantes. Bonjour. J'avais dit dès le début que je ne me représenterais pas. Je m'étais préparée à partir en vacances, quoi, puisque fin mars, tout aurait dû finir. Donc, il a fallu se remobiliser. Très vite, on a plongé dans l'action. Madame Lejeune, je viens à la crèche. Je vais voir si tout se passe bien. Ouais. Bonjour Martine. On n'a pas de flèche, là, du coup, mais les parents ont l'habitude. En fait, les premières semaines, noyé, je le dis, par des mails, des décisions, des contre-décisions, c'était assez déstabilisant et assez stressant. Ce qui est le plus dur à gérer, c'est ces incertitudes. C'est une espèce de poids sur les épaules. Ouais. Eh bien, sur la question des masques, on a fait un choix qui s'appelle la distribution collective. Mais les masques, ils ne sont toujours pas arrivés. Bon, Stéphanie. Alors, expliquez-moi comment vous voyez les choses. Les gens rentrent par ici.
Et le nombre de masques leur sont distribués également.
Très personnellement, j'aimerais bien que les élections du deuxième tour puissent se faire en juin. Ça voudrait dire que je peux retrouver ma liberté.
Voilà, reportage signé Margot Bédé et Anaïs Denet pour RMC. Déconfinement rime avec reprise de l'entraînement pour les sportifs comme les nageurs qui ont pu à nouveau goûter aux joies du plongeon. Illustration sur la Côte d'Azur, Jordan Olivier.
Allez Fantine, hein ?
Premier plongeon depuis près de 2 mois pour Fantine Le Saffre, la pensionnaire du club d'Antibes est ravie de retrouver les bassins.
J'ai perdu tous mes appuis, donc c'est un peu compliqué, je me sens lourde dans l'eau, mais globalement, ça fait vraiment du bien d'avoir retrouvé le chemin du bassin.
Médaille d'or lors des championnats d'Europe en 2018, la nageuse a pu reprendre l'entraînement grâce à son statut d'athlète de haut niveau, mais pas seulement.
J'ai passé plusieurs examens médicaux, des électrocardiogrammes, tout ça pour voir si tout allait bien, un petit test psychologique aussi, voilà, tout. Le protocole habituel, je dirais, pour reprendre l'entraînement correctement, quoi.
À quelques kilomètres d'Antibes, la piscine Fernand-Anneli de Nice, Evelyne, qui habite juste en face, avait pris l'habitude de s'y rendre 4 fois par semaine avant sa fermeture. Et voir les professionnels reprendre lui procure une certaine excitation.
Ça me donne envie de reprendre, oui, le plus rapidement possible, en espérant qu'ils ouvrent dans pas très longtemps. J'ai hâte que ça ouvre, parce que franchement, c'est agréable.
Evelyne va devoir pourtant encore patienter. Les piscines publiques ne devraient pas rouvrir avant plusieurs semaines.
Et puis rien ne va plus. À l'Olympique de Marseille, le départ de son directeur sportif espagnol Zubizarreta est acté. L'entraîneur André Villas-Boas pourrait lui emboîter le pas.
Ben, c'est voilà. Encore l'OM en crise. C'est ouais, malheureusement ce club qu'on adore, qui est toujours en crise. Je sais pas pourquoi. Bon, ben, il est 8h12. Vous êtes sur RMC. Et tout à l'heure, je serai avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail. J'ai des quantités de questions, mais alors ça afflue les questions, notamment sur, évidemment, le chômage partiel, mais aussi sur le télétravail, mais aussi sur la réforme du chômage et d'autres sujets que j'aborderai avec Muriel Pénicaud, bien sûr. Dans un instant, je suis avec le docteur Thierry Godeau, qui est diabétologue, endocrinologue, président de la commission médicale d'établissement, qui est au centre hospitalier de La Rochelle, qui était hier en liaison avec Emmanuel Macron, avec d'autres médecins, pour préparer l'hôpital de demain. Nous verrons s'il existe un jour cet hôpital de demain. On l'espère, et le docteur Godeau l'espère. Mais auparavant, je voudrais prendre Céline, qui proteste contre les aides apportées aux plus précaires. Bonjour Céline.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Bonjour, vous êtes artisan, hein, Céline.
Voilà, je suis un petit peu en colère depuis le discours de la secrétaire d'État tout à l'heure sur votre antenne, parce que vraiment, oui. Je comprends pas cette aide. Je vois pas pourquoi il faut leur apporter. Alors, je comprends que c'est des situations très délicates dans certaines familles, mais je vois pas ce qu'ils ont perdu pendant ces deux mois de confinement. Je vois pas, par rapport à d'autres entreprises.
Ben, certains, Céline, n'ont pas les moyens même de manger. Hein.
Oui, mais avant, est-ce qu'ils avaient mieux les moyens? Est-ce que, je sais pas, je vois pas qu'est-ce qui a changé avec le confinement pour leur donner cette aide. Je trouve qu'elle est quand même...
Vous ne comprenez pas qu'on distribue une aide exceptionnelle de solidarité?
Non. Parce que moi, je suis artisan, ce mois-ci, je prends pas de salaire, j'ai aucune aide. Alors, je me plains pas, j'ai travaillé, ma société n'a pas été fermée, mais j'ai perdu 30% de chiffre d'affaires ce mois-ci. Mais voilà, j'ai pas de salaire, j'ai aucune aide, tous mes crédits, je les ai reportés parce que je peux pas les payer sans salaire. J'ai aucune aide, moi j'ai tous les restaurateurs qui ont aucune aide pour leur salaire et eux pourtant c'est pas un choix d'avoir fermé leur restaurant et ces gens-là moi qui sont dans le besoin, je les comprends, il y a pas de souci, mais pourquoi encore leur amener des aides alors que ils ont pas perdu leur travail, ils en avaient pas, ils ont pas perdu.
Mais Céline, c'est pas un choix pour ces personnes non plus, Céline,
bien sûr,
pour beaucoup.
Bien sûr, mais nous non plus c'est pas un choix de perdre 30% de.
Mais je comprends. Il y a des aides quand même pour les artisans ou pour les restaurateurs. Je sais bien que c'est extrêmement difficile pour eux. Hein, je suis le premier. Vous savez combien je les défends. Mais
oui,
il y a des aides aussi,
bien,
Céline.
Ouais.
Il y a des aides aussi pour vous.
C'est que dalle. Enfin, moi, j'en ai aucune. Hein. J'ai perdu que 30% de chiffre d'affaires, donc j'ai aucune aide.
Oui.
Moi-ci, mon salaire, personne ne va le payer. Mon RSI,
qu'est-ce que vous travaillez dans quoi? Vous travaillez dans quoi,
Céline? Dans le nettoyage.
Dans le nettoyage.
Donc, ouais. Oui. J'ai deux entreprises de nettoyage, donc tous nos bureaux sont fermés. Ça reprend, mais pas beaucoup. Hein. Donc, mais c'est pas vraiment.
Vous avez pu mettre une partie de votre personnel en chômage partiel?
Oui, ils sont tous.
Bon, ça, c'est déjà une aide. C'est déjà une aide, Céline.
Oui. Tout à fait, mais ça, c'était vraiment pas pour parler de mon
cas. Par exemple, si vous êtes en grande difficulté, oui, mais Céline, si vous êtes en grande difficulté, vous pouvez demander un prêt garanti par l'État aussi.
Oui, ben pour l'instant, je l'ai pas demandé, mais peut-être que ça changera suivant. Mais bon, honnêtement, je pense qu'en septembre, je vais licencier, hein, parce que aujourd'hui, le chiffre d'affaires a baissé, j'ai des clients qui reprendront pas. Mais bon, vraiment, c'est pas parti pour mon cas personnel, parce que je suis pas la plus malheureuse. J'ai travaillé tous les jours. Et je vous dis, ce mois-ci, je peux pas prendre un salaire parce que ma société n'a pas les moyens de me payer et je préfère éviter de lui mettre encore des charges. Mais cette aide, je trouve ça quand même... Alors, les aider, je veux bien, mais autant, je trouve ça quand même vraiment énorme.
Autant, c'est 150 euros par foyer. Hein,
oui, plus 100 euros par enfant, quand même.
Plus 100 euros par enfant, oui, c'est une fois. Hein.
Donc, oui, mais ça, je trouve ça quand même... Enfin, vraiment, je suis révoltée, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le besoin et que cela, on les aide pas, et que tous les commerces qui vont fermer, ça, on n'en parle pas, et que le taux de chômage en septembre, il va être élevé, à mon avis, voilà.
Vous tombez bien, parce que vous avez eu raison de m'appeler, Céline, parce que je vais parler de cela, Muriel Pénicaud, le risque du chômage, évidemment, de masse, dans les mois qui viennent. Merci, voilà. Céline. Merci dans tous les cas. Merci beaucoup, Céline. Merci, au revoir. 8h16, docteur Thierry Godeau, vous êtes en direct avec nous, donc. Bonjour.
Oui,
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Merci d'être avec nous. Docteur Godeau, vous avez rencontré par visioconférence Emmanuel Macron et Olivier Véran hier. 10 à participer, tous issus du monde hospitalier, pour préparer. Moi, je me souviens, vous aussi le premier, puisque vous êtes plus concerné encore que moi, du chantier promis, du grand plan pour aider l'hôpital promis par le président de la République. Alors, il y a eu... Hier, le président de la République était très à l'écoute. Maintenant, il faudra savoir ce que ça va donner. Vous attendez du concret, j'imagine. Qu'attendez-vous ?
Oui, on attend du concret, parce que ce qu'on doit dire, c'est que l'hôpital a bien tenu le choc pendant la crise, mais il ne faudrait pas dire que parce qu'il a tenu le choc pendant la crise, tout va bien, et qu'il faut oublier la situation. Ça fait quand même plusieurs années que les hospitaliers sont inquiets par perte de moyens, les problèmes de rémunération qui stagnent, les écarts avec le privé, les professionnels de santé sont moins bien payés en France que dans beaucoup de pays européens. Il n'y a plus de moyens financiers, plus assez de moyens financiers par rapport aux besoins, plus assez d'investissements. Donc on attend des signes concrets. Ça fait plusieurs fois qu'on nous annonce des plans hôpital et les choses ont du mal à avancer. Donc il y a, de mon point de vue, une urgence absolue, c'est les rémunérations. Clairement, oui. Il faut envoyer un signal aux hospitaliers. Ça, oui. Ce n'est plus possible. Vous savez, depuis 10 ans, dans la fonction publique, les salaires sont gelés. Les écarts, il y a une perte de pouvoir d'achat très importante. Il y a un problème de reconnaissance des compétences, y compris pour les médecins. Vous savez, il y a des énormes écarts entre le public et le privé. Donc là, c'est un signe. Mais il ne faudrait pas croire que ça va résoudre le problème de l'hôpital. On a un problème d'attractivité, on a un problème de perte de sens au travail. Si on améliore les rémunérations, mais qu'on ne gère pas le problème des investissements dans les matériels, dans les bâtiments, dans les structures, on a vu que des établissements étaient en difficulté avec les chambres doubles. Si on ne gère pas le problème des lits, si le quotidien de l'hôpital, c'est passer son temps à chercher des lits, si les urgences sont toujours embolisées, si les gens, les soignants, on voit que la crise a beaucoup rapproché, notamment les médecins et les soignants, n'ont toujours pas d'emprise sur les décisions. Il faut remettre le service au cœur du dispositif. On l'a dit, il faut alléger la bureaucratie.
Il faut sortir, si j'ai bien compris, je vous interromps, docteur Godeau, sortir de la logique comptable de l'hôpital.
Alors, voilà. J'ai envie de dire, on n'a pas de politique de santé en France. On a une gestion comptable de la santé. Il faut refaire un vrai projet de santé publique, un vrai projet du système de santé avec des objectifs. Et il faut se donner les moyens de ces objectifs. Aujourd'hui, on a une enveloppe et on fait comme on peut. Et surtout, on fait croire qu'on peut faire toujours plus avec moins. Et ça ne peut plus durer. Néanmoins, c'est pas un plan hôpital qu'il faut. Il faut évidemment des mesures, j'en ai parlé à l'hôpital, mais c'est un plan du système de santé. Notre système de santé, qui va quand même pas si mal que ça, il reste cloisonné. Les gens travaillent, les professionnels travaillent les uns à côté des autres. Il n'y a pas assez de relations entre la ville et l'hôpital. On a vu quand même qu'il fallait que le privé avait aussi aidé l'hôpital. Il faut quand même capitaliser là-dessus. Par exemple, au niveau financement, on a un ONDAM ville-hôpital. C'est pas possible de fonctionner comme ça. À un moment où, si vous voulez être soigné, c'est une continuité dans tous les parcours de soins. Peu importe que ça soit l'hôpital ou le médecin traitant qui ait fait l'ordonnance. Qu'est-ce qui compte, c'est que vous soyez soigné correctement au juste soin.
Alors, est-ce que le président de la République vous a fait des promesses hier ?
Il nous a fait des promesses de réengager un plan hôpital. Bon, il a semblé très à l'écoute, mais on reste prudent. On a l'impression qu'il a quand même saisi que le malaise hospitalier était bien plus important, bien plus profond qu'il ne le pensait. Bon, on verra bien sur des actes concrets. Il a promis des choses, notamment sur les rémunérations, sur l'amélioration du quotidien, remettre le service. C'était pas obligatoirement des choses très concrètes. On était dans la déclaration d'intention, mais vous voyez, je vais prendre un exemple. La simplification administrative, ça fait 10 ans qu'on nous la promet. Année par année, elle se complexifie.
Oui. Bien, docteur Godeau, on aura l'occasion de vous retrouver parce qu'on va suivre ça de près. Assez des primes, des salaires, des augmentations de salaires. Ça va avec les primes. Merci. Bon, il arrive un moment où... Oui, allez-y, voilà. Très vite, docteur. Mais
juste, ce que je voudrais dire aussi, ce que la crise a prouvé, quand même, oui. C'est que l'hôpital, ça restait le pilier du système. On peut pas se permettre d'avoir un hôpital moribond. On peut pas se permettre d'avoir un hôpital qui est pas le lieu de l'excellence. Hein, c'est le lieu de l'accueil pour tous, mais c'est doit être le lieu de l'excellence, de l'innovation. On a vu que rien n'était possible sans l'hôpital. Il peut pas être sacrifié dans la santé.
Merci beaucoup, hein, docteur Thierry Godot. Merci d'avoir été avec nous. Nous continuerons, évidemment. Hein. 8h20, et les promesses doivent être tenues. Les promesses doivent être tenues. Il est 8h21.
À suivre, les Français pourront partir en vacances pour les vacances d'été en France, mais peut-être pas les touristes étrangers. C'est pas si grave, va nous dire Emmanuel Le Chypre dans un instant sur RMC.
RMC,
Bourdin Direct. Et justement, le gouvernement dit aux Français, vous pouvez réserver dès maintenant pour les mois de juillet et d'août. C'est pas ce que va faire Eugenia. Je ne vais pas réserver pour le moment. J'attends de voir comment l'épidémie évolue. Elvis aussi nous dit, on avait réservé dès l'année dernière. En toute franchise, je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller. Si c'est pas pour pouvoir profiter de toutes les prestations du camping, je préfère rester chez moi. La même inquiétude chez Philippe, qui a l'habitude de partir en Bretagne, mais qui a un gros doute sur la possibilité de passer des vacances normales, entre guillemets, écrit Philippe. Renaud, pour lui, de toute façon, c'est pas avant fin septembre, début octobre, les vacances. On sait pas encore ce qu'on va faire, on verra à la dernière minute, nous écrit Renaud. En revanche, vous êtes nombreux camping-caristes à avoir déjà prévu des choses. Tout à l'heure, on avait Véronique qui va sillonner les routes de France. Michel, moi aussi, pour moi, les vraies vacances, c'est le camping-car. On profite de nos beaux paysages de France et par définition, c'est tout près de la maison, puisque notre maison, eh ben, c'est le camping-car, écrit Michel.
RMC 6h-9h,
Bourdin Direct.
Bien, Emmanuel Le Chypre est avec nous et Quentin Vinet pour 2-3 infos. Mais je vais commencer avec vous, Emmanuel. Le plus important, c'est que les Français puissent voyager en France. Hein. Pour le tourisme, c'est essentiel. Emmanuel.
Mais oui, c'est essentiel parce que on a l'impression que l'alpha et l'oméga de la politique du tourisme pour le gouvernement, c'est, vous savez, cette fameuse barre fétiche des 100 millions de touristes étrangers. On a l'impression que c'est ça, la politique du tourisme. Alors, et oui, c'est important, c'est vrai, notamment pour les hôtels de luxe. Il faut pas le nier. Mais il faut rappeler que les touristes étrangers en France, ça ne représente que 30% de l'activité du secteur du tourisme. 70% c'est les gens qui habitent en France et voyagent en France. Et même si vous regardez les nuits d'hôtel, c'est 80% de clientèle française. D'abord parce que sur les fameux 91 millions de touristes qu'on accueille, il faut rappeler qu'il n'y en a que 20 millions qui rentrent par une frontière, qui ressortent par l'autre, qui transitent par la France. Ce ne sont pas des vrais touristes. Ils transitent par la France. C'est les gens du Nord qui vont en vacances en Espagne ou en Italie.
Ils prennent l'autoroute, ils s'arrêtent, ils font le plein.
Au mieux, ils font le plein, mais pas plus.
Ils ont tout dans leur coffre.
Et puis, sur les 70 millions de touristes qui restent, vous en avez quand même 8 millions, par exemple, qui ne vont que chez Disney et qui ne vont pas ailleurs. Et puis, n'oubliez pas que si on ne peut pas aller à l'étranger, en réalité, je pense qu'avec les Européens, on va pouvoir s'arranger.
Oui.
Mais bon, si on ne peut pas aller à l'étranger, y a les Français qui partent à l'étranger, qui vont rester en France. 20 millions de voyages! 20 millions de voyages chaque année. Et en plus, on peut considérer que c'est une clientèle qui est plutôt plus aisée et qui va dépenser davantage.
Encore faut-il que les Français aient l'envie et les moyens de partir.
Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils seront moins nombreux à partir. On a une enquête loisirs enchères YouGov. 19% des Français ont d'ores et déjà annulé ou reporté leurs vacances. Et VVF nous dit qu'il y en a 15% qui ont choisi d'écourter ces vacances. Et puis, c'est vrai, avec des moyens resserrés. Là, on a une autre enquête parue hier. AlgoFly, 31% des familles déclarent que leur budget de vacances sera inférieur à d'habitude. Il n'y en a que 5% qui disent qu'ils vont dépenser plus que d'habitude.
Merci Emmanuel Le Chypre. Il est 8h29. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est mon invité dans un instant. J'ai beaucoup, beaucoup de questions à lui poser. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés ce matin. Comme tous les jours, nous serons là lundi, évidemment. Merci Muriel Pénicaud sur RMC BFM TV dans 3-4 minutes. Anne-Sophie Balbier est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le nombre de personnes tuées sur les routes a fortement chuté, moins 55,8% en avril, mois pendant lequel la France était confinée. La SNCF relance aujourd'hui les réservations des TGV et Intercités. La compagnie ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains, au moins jusqu'au 2 juin. On a appris hier que les Français pourraient partir en vacances cet été en France métropolitaine et dans les dom-toms. Et puis, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace contre le Covid. Ce sont les conclusions de deux études, dont une menée par des chercheurs français. Il est 8h31. Dans un instant, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité ce matin, Muriel Pénicaud, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Oui, Muriel Pénicaud, je vous entends mal. Si
on, ah, on ça c'est tant mieux. Moi, voilà. Je vous entends.
Voilà, vous savez que vous êtes en duplex, que tout le monde regrette, hein, Muriel Pénicaud. Les interviews sont plus percutantes,
j'espère
plus rebondissantes.
Vite.
Oui, quand vous êtes en direct, vous étiez la dernière d'ailleurs à venir, le 16 mars, ici même, vous étiez en studio avec moi, dernier membre du gouvernement. Un tiers de questions en moins, nos confrères de Quotidien ont mesuré. Un tiers de questions en moins lorsque vous êtes en duplex. Bon, j'espère que vous allez revenir très vite nous voir. Bien, Muriel Pénicaud, vous incitez les Français à reprendre le travail, à retourner dans leur entreprise. C'est bien cela ?
Je crois qu'on est dans une nouvelle période, le déconfinement. On a, dans un premier temps, pour sauver des vies, il fallait confiner. Maintenant, on peut continuer à sauver des vies tout en travaillant et en protégeant les salariés, les clients, tous ceux qui sont dans le monde du travail. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a les modalités pour le faire et que la meilleure protection pour demain, pour l'activité économique, pour le tissu des petites entreprises, pour l'emploi, c'est effectivement le retour au travail qui est progressif, qui se fait avec des conditions sanitaires, il se fait pas n'importe comment, il se fait avec prudence, mais il se fait résolument et on a besoin de ça pour notre pays.
Bien, Muriel Pénicaud, j'ai des quantités de questions à vous poser sur le télétravail, sur le chômage partiel, vous l'imaginez. Parlons des Français qui vont donc pouvoir partir en vacances cet été en France métropolitaine et dans les dom-tom en juillet et au mois d'août. Le tourisme, c'est essentiel, on le sait, pour l'économie française. 2 millions d'emplois, un plan de relance de 18 milliards d'euros qui est prévu par le gouvernement, de nombreuses aides. Dites-moi, je pense au contrat saisonnier parce que je pense à tous les professionnels de tourisme, vont-ils pouvoir poursuivre la saison après les mois de juillet-août et par exemple prolonger les contrats saisonniers?
Alors effectivement, le tourisme c'est très important, c'est 7% de la richesse nationale qui est produite par le tourisme, c'est 2 millions d'emplois. Quand on dit tourisme, c'est tourisme au sens large, ça va du gîte à toute l'hôtellerie, à la restauration, l'ensemble du secteur. Donc c'est un élément clé pour le pays, pour l'emploi. Et donc oui, les contrats saisonniers, ils peuvent durer au-delà de la saison. Aujourd'hui, on peut avoir un contrat de saisonnier de 6 mois, c'est tout à fait possible. Il faut aussi que la saison dure, c'est-à-dire qu'il y ait des clients qui puissent continuer à venir. Et notre grand sujet aujourd'hui, ça va être paradoxalement aussi, dès qu'on a une capacité à rouvrir, on espère dans quelques semaines, les hôtels, les restaurants, quand ça va... Si le déconfinement...
En zone verte le 2 juillet, hein, Muriel Pénicaud.
Produit des résultats.
En zone verte le 2 juillet.
Si les départements sont bien restés verts d'ici là, en gros, si on arrive à contenir l'épidémie, à ce moment-là, le Premier ministre l'a annoncé hier, on pourrait rouvrir les restaurants, les cafés et les lieux de tourisme à partir du 2 juin. Et là, il faudra mettre la démultiplier, si je veux dire. C'est pour ça qu'avec les professionnels, et on en a parlé au comité interministériel de tourisme hier, mais on travaille avec eux tous les jours, on est en train de préparer deux choses. Une plateforme qui est faite avec les professionnels et Pôle emploi pour recruter, puisqu'il va falloir recruter massivement des saisonniers qui, du coup, d'habitude, à cette saison, les recrutements sont déjà en cours. Là, il va falloir mettre le turbo, si j'ose dire. Donc, ça se prépare pour pouvoir recruter extrêmement rapidement des saisonniers, des apprentis. Et puis aussi, toutes les guides sanitaires. Parce que, évidemment, il n'est pas question que l'ouverture du tourisme, des cafés, des restaurants, entraîne un regain de l'épidémie, ce serait une catastrophe pour tous.
Et donc, quand est-ce qu'on aura ce guide sanitaire, justement? Quand l'aura-t-on, ce guide sanitaire?
Alors, on en a déjà dans certains métiers, certains métiers, par exemple de l'hôtellerie, pour la femme de chambre, pour le réceptionniste, on a déjà certains métiers pour la cuisine. Ce qu'on est en train de préparer, c'est, avec les professionnels, c'est les serveurs, et puis surtout, comment on organise la salle de restaurant ou le café, pour qu'on puisse faire les gestes barrières et la distanciation. Ça n'est pas facile, mais on l'a trouvé une solution pour les coiffeurs, on a trouvé une solution par le bâtiment, en travaillant avec les partenaires sociaux, avec les professionnels, on va trouver
quand
une solution, on a jusqu'au 2 juin pour la trouver.
Voilà.
Bien, d'ici avant le 2 juin, il faut qu'on ait le guide.
Dans les 10 jours qui viennent, et on est le 15, dans les 10 jours qui viennent, il faut trouver le guide, hein, Muriel Pénicaud.
Vous savez, on a produit 64 guides depuis un mois et demi, donc on est à fond sur le sujet et je crois que c'est une priorité.
Bien, Muriel Pénicaud, parlons du chômage partiel. J'ai une question très simple à vous poser pour engager le sujet. Est-ce que trop de Français sont aujourd'hui au chômage partiel?
Ça ne se mesure pas comme ça. Est-ce qu'on a bien fait de faire un chômage partiel massif, inédit, comme on n'a jamais fait, qui protège 11 millions de salariés et 1 million d'entreprises sur les 1 300 000 qui embauchent? La réponse est oui. Sinon, on aurait des centaines de milliers, des millions de chômeurs en plus. Donc, on a bien fait d'amener ce filet de protection massif. Alors, maintenant, le chômage partiel, ce n'est pas pour toujours, parce qu'effectivement, ça n'aurait pas de sens économique, ça n'aurait pas de sens en termes d'emploi. Donc, il va falloir progressivement, et on le voit, on le constate déjà, reprendre l'activité économique. Et on a fait quelque chose de très souple pour que le chômage partiel puisse aussi accompagner la reprise. Concrètement, vous avez une entreprise de 50 salariés, l'activité reprend, mais pas complètement. Vous en faites revenir 20 salariés qui reprennent leur contrat de travail. Donc, c'est l'entreprise qui les paye, c'est plus l'État. Je rappelle que sur le chômage partiel, c'est l'État, le ministère du Travail, qui paye leur salaire. Et les autres restent en chômage partiel, peut-être 2-3 semaines de plus, le temps que les affaires augmentent. Et donc, ça, c'est quelque chose de très souple qui va accompagner la reprise. Mais effectivement, ça n'est pas fait pour durer indéfiniment. C'est
alors, une justement.
Qui montre la gravité que 6 oui. salariés sur 10 du secteur privé soient payés par l'État. C'est
alors,
inédit.
Je vais revenir sur les chiffres.
C'est utile, mais maintenant, il faut bouger.
Bien sûr, je vais revenir sur les chiffres, Muriel Pénicaud, concernant le chômage partiel, mais vous venez de dire quelque chose d'important, possibilité de garder une partie de son personnel au chômage partiel, on est bien d'accord, jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, dans le secteur du tourisme très touché, jusqu'à la fin de l'année, cette possibilité.
Pour le secteur du tourisme, les cafés et les restaurants, qui en plus, eux, sont encore frappés de fermetures administratives, ça sera jusqu'à la fin de l'année s'il le faut. Après, il y a des secteurs qui sont repartis, qui repartent, on verra au fur et à mesure. Vous savez, on a été pragmatique dans la mise en place, on sera pragmatique dans la décrue progressive. Le plus important, c'est que l'emploi reprenne. Et on a accompagné ça...
Ce chômage partiel personnalisé, j'ai vu les demandes du MEDEF, vous aussi, vous les avez vues, oui. Vous les avez reçues, les demandes des syndicats, qui demandent que le chômage partiel soit prolongé jusqu'à l'été. Bien, chômage partiel, est-ce que ce chômage partiel sera prolongé jusqu'à l'été? Et est-ce que le chômage partiel individualisé pourrait être prolongé donc jusqu'à la fin de l'année 2020?
Alors, le chômage partiel, il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'il y a une date où ça s'arrête. C'est fait pour accompagner les entreprises en difficulté. Après, il y a un dosage. Encore une fois, ça ne peut pas être à la place de l'activité. Chaque fois qu'on peut repartir, pour tout ou partie de ses salariés, il faut réactiver les contrats de travail, évidemment. Ça n'a pas de sens pour le devenir d'une entreprise, ça n'a pas de sens pour l'emploi, que ça soit l'État qui continue à payer les salaires du secteur privé quand on peut repartir. Après, si c'est plus difficile, et c'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est plus difficile, je pense au tourisme, au café et au restaurant, ils n'ont même pas encore rouvert, donc le sujet est plus difficile, ou à l'aéronautique ou à l'automobile, qui sont des secteurs très très touchés par cette crise, ça va forcément durer plus longtemps que dans d'autres secteurs où aujourd'hui il y a les conditions de la reprise. Donc il faut être pragmatique, il faut coller au terrain, c'est comme ça qu'on fait depuis le début, on va continuer comme ça, mais encore une fois, le but d'un entrepreneur, c'est de retrouver ses marchés, ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, dans des conditions sanitaires sécurisées et le plus vite possible. Nous, on l'accompagnera, mais ça ne doit pas être le principal. C'est l'accompagnement, le chômage partiel, ce n'est pas le but.
Bien, ben Muriel Pénicaud, est-ce que la prise en charge par l'État du salaire va diminuer?
Alors, avec le Premier ministre, nous avons annoncé que le taux de remboursement des entreprises, à partir du 1er juin, commencerait à baisser légèrement. Nous fixerons d'ici quelques jours le montant.
C'est-à-dire
évidemment
c'est-à-dire
pas. On n'a pas encore dit de quel pourcentage.
Non, ça va baisser, donc la prise en charge. Pardon, Muriel Pénicaud. La prise en charge par l'État va baisser à partir du mois de juin.
L'État sera plus forcément à 100%. Aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne bien que les 11 millions de salariés, c'est l'État qui paye intégralement leur salaire, jusqu'à 4,5 fois du SMIC. L'idée, c'est que maintenant que l'activité reprend, que le déconfinement est là, progressivement, la part de l'État soit plus forcément à 100%. Sauf, bien sûr, et ça je le confirme, au secteur du tourisme, des cafés, des restaurants, les secteurs qui sont fermés administrativement, évidemment, il faut leur laisser le temps. Et ça serait tout à fait contradictoire de leur dire vous devez payer une partie du salaire.
Mais est-ce que vous allez agir, Muriel Pénicaud, est-ce que vous allez baisser le plafond? Le plafond est fixé à 4,5 fois le SMIC. Ou est-ce que vous allez baisser le pourcentage de la prise en charge?
Il y a deux, trois manières de faire et on annoncera ça dans quelques jours. Probablement, oui. Le pourcentage, c'est le plus simple. Enfin, on fera quelque chose de simple.
Le moi, pourcentage, c'est plus simple.
Parce que pourquoi ça marchait, le chômage partiel, pourquoi ça marchait aussi? Un, c'est un filet de sécurité. Deux, les entreprises gardent leurs compétences. Mais aussi, on a fait quelque chose de très simple. Et pour moi, un des marqueurs de ça, c'est que la moitié des salariés qui sont au chômage partiel, aujourd'hui, ils travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Il faut sauver nos TPE, nos PME. C'est 9 entreprises sur 3 dans notre pays. C'est la moitié des emplois. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire des choses simples pour être sûr que tout le monde puisse les mettre en place en quelques jours.
Donc, je comprends bien. Le pourcentage de prise en charge par l'État va baisser à partir de début juin. J'ai bien compris.
Ce sera le pourcentage ou une modalité. Mais probablement le pourcentage. En tout cas, quelque chose baissera.
Bien, ça va baisser. Bon, un mot vite sur les versements par l'État. J'ai eu beaucoup d'appels de petits chefs d'entreprise, notamment de TPE, qui n'ont pas reçu le paiement pour le mois d'avril.
Alors c'est normal parce que la plupart ne l'ont pas demandé encore. Je vous explique comment ça marche. Vous faites une demande d'autorisation à utiliser le chômage partiel. Et puis une fois que vous payez les salaires à la fin du mois, il faut déclarer au ministère du Travail combien vous avez payé de salaire. On ne peut pas vous rembourser si on ne sait pas combien de salariés ont été au chômage partiel et pour quel taux horaire. Donc il faut faire cette déclaration. Après cette déclaration, nous payons systématiquement à 10 jours. Donc il y a 10 jours de délai pour être remboursé. Mais aujourd'hui, sur le mois d'avril, il y a encore la moitié des entreprises qui n'ont pas fait de demande. Et donc, pour être
remboursé,
il faut juste faire la demande. 10 jours après, vous êtes payé. De façon générale, les grandes entreprises demandent les remboursements assez tardivement. Et même sur le mois de mars, il y en a qui ne l'ont pas fait encore. Mais par contre, les petites entreprises demandent très vite parce qu'elles sont plus à court de trésorerie.
C'est évidemment.
Pour ça qu'on a raccourci les délais et on paye à 10 jours, ce qui est quand même pour 1 million d'entreprises. Et c'est un certain exploit. Je voudrais saluer mes équipes là-dessus et l'agence de paiement parce qu'ils ont fait un énorme travail pour arriver à le faire.
L'assurance chômage, Muriel Pénicaud, le second volet de la réforme entrera en vigueur ou pas? Est-ce que vous allez renoncer? C'est la demande de nombreux syndicats et de nombreuses associations qui réclament le retrait de la réforme. Oui ou non? Est-ce que vous allez retirer?
Alors, là aussi, même approche. On discute, on observe et on est pragmatique. On a lancé cette réforme de l'assurance chômage, dont une bonne partie est déjà en œuvre depuis le mois de novembre dernier, dans un contexte différent, et avec pour but de activer la dynamique de l'emploi et lutter contre le nombre de contrats excessivement courts, lutter contre la précarité qui était trop importante. Mais on l'a fait dans un contexte qui est objectivement différent, personne ne pouvait prévoir cette crise. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois exactement, quasiment jour pour jour, on annonçait la baisse du chômage historique depuis 12 ans, l'explosion de l'apprentissage. C'était il y a 3 mois, ça nous paraît bien loin. Et donc, évidemment, j'ai dit aux partenaires sociaux qu'on allait réexaminer la situation pour regarder s'il y a des curseurs, s'il y a des réglages qu'il faut modifier. Il y en aura certainement à modifier.
Mais des réglages,
on va discuter ça dans les semaines qui viennent,
mais
c'est pas tout ou rien.
Voilà, ce n'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que la deuxième partie de la réforme sera peut-être... Pardon, Muriel Pénicaud. La deuxième partie de la réforme sera appliquée, même modifiée, même améliorée ou transformée, changée. Elle sera appliquée.
C'est pas en ces termes-là que je pose la question. On regarde la situation de l'emploi, la situation économique, la situation des demandeurs d'emploi. J'ai déjà fait plein d'aménagements pour protéger les plus vulnérables. Par exemple, les démissionnaires qui venaient de démissionner et qui avaient une promesse d'embauche qui se retrouvaient sans rien. Là, on les a couverts par l'assurance chômage. On a allongé les fins de droit pour tous ceux qui arrivaient en fin de droit en mars et en avril. Donc, on a déjà pris des tas de mesures pour protéger les plus vulnérables. Donc, il faut examiner toutes les mesures sans a priori. Je crois que c'est le maître mot, sans a priori, mais de façon réaliste par rapport à la situation du pays, de l'emploi et de la capacité à trouver un emploi. Ce matin, il y avait 400 000 offres d'emploi, 430 000 sur le site de Pôle emploi. Au passage, même une période de crise, on recrute. Mais c'est moins que d'habitude. Avant, c'était autour de plus de 700 000 chaque jour. Donc, il faut tenir compte de cette situation, mais on va regarder les choses. Moi, je n'ai pas d'a priori, mais on regarde les choses sur des bases objectives pour faire les bonnes adaptations.
Alors, j'ai entendu, évidemment, la fameuse formule « plus rien ne sera comme avant ». Alors, je vous pose une question. Les CDD, est-ce que le CDD sera renouvelable plus de 2 fois?
Alors, uniquement dans un cas, que nous avons prévu dans un texte de loi qui est en cours de discussion au Parlement, dans un cas où il y a aujourd'hui des entreprises qui reprennent. Et il y avait des CDD, des intérimaires, qui étaient couverts par le chômage partiel pendant cette période-là, parce qu'on les a ouverts aussi aux CDD, au chômage partiel, pendant ouvert à tous ceux qui n'y avaient pas droit avant, pour que tout le monde soit protégé. L'entreprise repart, l'activité repart. Et eux, bah, leur contrat, ils continuent à courir, donc ils perdent leur contrat maintenant au moment où ça repart. Donc eux, ils se retrouvent au chômage et l'entreprise n'a pas les compétences. Donc ce que nous avons prévu dans le texte de loi, après que j'en ai discuté avec les partenaires sociaux, c'est que de façon exceptionnelle, jusqu'à la fin de l'année, dans une entreprise, s'il y a un accord majoritaire avec les syndicats dans l'entreprise, donc c'est sous contrôle du dialogue social, on pourrait prolonger un peu plus les CDD et l'intérim, sans dépasser les fameux 18 mois, pour que ces salariés ne se retrouvent pas demain au chômage alors que l'activité reprend.
Muriel Pénicaud, j'entendais, vous l'entendez aussi, vous entendez le personnel soignant. On en a assez des primes, dit le personnel soignant. C'est ce qu'ont dit les médecins hier à Emmanuel Macron. On veut des augmentations de salaire. Est-ce que le personnel soignant à l'hôpital sera augmenté, oui ou non ?
Le président de la République a pris un engagement sur les rémunérations des soignants et sur les moyens de l'hôpital. Donc le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, discute et va discuter avec tous les employeurs sur la manière de l'organiser. Et
il y aura donc des augmentations.
Augmenter, il a dit.
Alors, il y aura des augmentations
il a dit,
de salaire.
Il y aura un plan sur les rémunérations. Il y a, eh bien, de façon générale. Il faut le discuter. Ça aussi, c'est du dialogue social. Oui. C'est le ministre de la Solidarité et de la Santé qui en est en charge. Ça commence par les primes. Les primes vont être versées en mai et juin. Je crois pas qu'ils soient contre les primes. Ils disent que ça ne suffit pas. Je connais personne qui est contre le fait qu'on verse une prime, prime exceptionnelle qui est justifiée. Mais il y a un sujet de l'hôpital qui a été reconnu. Et comment les moyens de l'hôpital et les moyens des soignants augmentent, ça fait partie des sujets. Mais là, on est en pleine urgence. C'est normal que ça prenne un peu de temps.
Non mais Muriel Pénicaud, ma question est claire. Je comprends qu'il faille discuter avec les salariés. Oui ou non, est-ce que les personnels soignants seront rapidement augmentés ?
Alors, je ne peux pas vous dire le rapidement parce que je ne suis pas en charge de cette négociation. Je ne connais pas le calendrier exact. Mais il y a des discussions sur la table, effectivement, sur le sujet.
Sur le sujet. Donc, ils seront augmentés. Quand ? On ne peut pas dire, mais ils seront augmentés.
J'ai vu qu'il y a des discussions, effectivement, par le ministre de la Santé, avec tous les acteurs. Il y a des employeurs publics et privés, hein, donc c'est des discussions qui prennent un peu de temps, parce qu'il y a les hôpitaux publics, il y a les cliniques privées, et puis il y a les EHPAD. Enfin, c'est l'ensemble du secteur qui s'est fortement mobilisé, et qui est aujourd'hui encore est très en tension, parce que en tension de le nombre de personnes en réanimation, le nombre de personnes en EHPAD qu'il faut protéger. Je rappelle que tous ces personnels soignants, et quand on dit soignants, c'est au sens large, hein, c'est l'ensemble du personnel d'un hôpital ou d'un EHPAD. Ils sont toujours au front. Il ne faut pas croire que c'est derrière nous. C'est toujours vrai. Il y a encore beaucoup de personnes en réanimation. Ça s'améliore. Mais on est quand même encore dans cette situation d'urgence.
Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous appelez toutes les entreprises privées et publiques à ouvrir des négociations salariales pour celles et ceux qui étaient en seconde ligne pendant cette crise sanitaire et qui sont souvent mal payés ? Je pense à tous les métiers de la sécurité, je pense aux métiers du nettoyage, je pense aux métiers de la route, entre autres. Muriel Pénicaud.
Alors, le président de la République l'a dit dans son allocution, la deuxième ligne, c'est-à-dire celle derrière les soignants, mais qui a permis que l'activité et la vie continuent tout simplement pendant les deux mois de confinement, les presque deux mois de confinement, ce sont effectivement des caissiers et des caissières, des manutentionnaires des entrepôts logistiques, ce sont les éboueurs, ce sont les chauffeurs-livreurs. Donc il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ont été vraiment au front et qui ont permis que la vie continue. Donc il faut une forme de reconnaissance et je pense que beaucoup de Français ont pris conscience à ce moment-là d'ailleurs de l'importance de ces métiers plus que d'habitude. Et beaucoup de ceux qui travaillent dans ces métiers disent aujourd'hui, avant j'étais considéré comme pas grand-chose et aujourd'hui on reconnaît que mon métier est important. Mais maintenant c'est quoi la suite ? La suite, il y a court terme et moyen terme. À court terme, nous avons prévu une disposition qui permet à leurs employeurs, c'est du secteur privé, donc c'est aux employeurs de traiter le sujet, aux employeurs de leur verser une prime sans charge sociale, sans impôt, ni pour le salarié, ni pour l'employeur, de jusqu'à 1 000 euros et même 2 000 euros s'il y a un accord d'intéressement. Donc moi, je suis très attentive à regarder est-ce que les employeurs vont le faire. Ça, c'est le court terme, mais enfin le court terme qui compte. Et je note que dans la distribution, une grande partie des enseignes le font. Moi, j'attends que toutes les enseignes le fassent, toutes les grandes enseignes alimentaires, qu'elles soient intégrées ou franchisées. Mais c'est en voie. Il y a d'autres secteurs où on va observer ce qui se passe. Ensuite, il y a le sujet des perspectives. Et là, c'est plus le moyen terme. Et là, il faut qu'il y ait un dialogue social dans chaque branche. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je convoquerai les principales branches concernées. D'abord, pour se dire quels sont les métiers concernés. Et du coup, comment ils peuvent être reconnus dans la durée? Parce qu'il y a les questions de salaire, il y a les questions de formation, il y a les questions de perspective de carrière. Est-ce que vous avez une perspective d'évolution quand vous entrez comme éboueur ou caissière? Ça, c'est important parce que c'est l'avenir professionnel de ces salariés. Alors, on a mis beaucoup de choses sur la formation déjà avec mon compte formation, mais il faut que cette discussion ait lieu dans les branches concernées avec les partenaires sociaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que je convoquerai les branches concernées pour qu'on en discute. Qu'ils définissent les métiers et qu'on regarde ce qui peut être fait.
Bien, Muriel Pénicaud, nous serons attentifs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RMC et BFM TV. Il est 8h55.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal,
Olivier Truchot.
Les GG vous attendent tout de suite en direct sur RMC, RMC Story. Gilles-William Goladel, Jérôme Marty, Marianne Soubré. Voilà le trio GG.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.